Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le 4 novembre dernier, s'est éteint un géant de la pensée contemporaine, René Girard, intellectuel hors norme, né en 1923 à Avignon, philosophe, anthropologue, professeur émérite de littérature comparée à l'université américaine de Stanford, élu à l'Académie française en 2005. Le génie de cet homme, avoir proposé une lecture de l'origine de la violence dans toute société, appelée le désir mimétique, et de la manière qu'aurait toute société de réguler cette violence, appelée théorie du bouc émissaire. Aujourd'hui, je vous propose une émission d'hommage et de vulgarisation de sa pensée. Alors, pour parler de René Girard, je reçois aujourd'hui le frère Gilles Danroc. Vous êtes dominicain et enseignant à l'IERP. Bonjour mon frère.
Bonjour.
Aujourd'hui donc, une émission hommage, comme je disais en introduction, et vulgarisation de la pensée de René Girard. Alors je compte sur vous pour nous aider à rendre accessible cette pensée extraordinaire, mais parfois un peu complexe. En début d'émission, on s'est dit ensemble, en préparant cette émission, qu'on allait commencer par voir d'où il venait, où est-ce qu'il est né. Donc c'est un Français, même s'il a vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Il est né en Avignon, nous dire un peu à quoi ressemblait sa famille, quel était son biotope?
Oh ben c'est une famille d'intellectuels. Sa mère est catholique et il va revenir à son christianisme ou son catholicisme maternel. Son père est athée et dirige les archives du Palais des Papes d'Avignon. Et donc c'est une famille d'intellectuels qui a aidé sûrement le jeune René Girard à faire de bonnes études. Il intègre l'école des Chartes à Paris et il a travaillé d'ailleurs sur des représentations de la vie publique en Avignon d'après des documents. Voilà.
Alors l'école des Chartes, on peut en dire un mot, c'est une espèce d'école normale supérieure, des archivistes, des bibliothécaires, une très très grande école.
C'est une très grande école, tout à fait, mais qui allie l'histoire et surtout la possibilité d'établir et d'interpréter des textes. Et ça va lui rester toute sa vie, parce que c'est un grand lecteur.
Voilà. Alors ensuite, comment de l'école des Chartes aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire aux États-Unis en fait?
Il a une bourse d'études et puis il va passer sa thèse à l'université d'Indiana, si je me souviens bien. Et de là, il va commencer à intégrer les très jeunes profs, mais ça c'est très très université américaine. Il est presque du même âge que ses élèves, enfin que ses étudiants. Et il le dira avec un sourire souvent dans ses interviews, qu'il avait cette proximité et en même temps cette rigueur en marche. C'est-à-dire que tout le temps, il a avancé dans ses théories. Donc il commence par enseigner la littérature française, la littérature et la culture française.
Alors c'est pas forcément très connu ça, en tout cas pour ceux qui le connaissent à gros traits, moi quand vous m'avez dit ça je ne le savais pas, je l'avoue. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important de partir de là et puis quel a été justement le début de son travail universitaire?
Eh bien oui, c'est parce que quand quelque chose est écrit, il y a quand même une nécessité de l'écriture. Un romancier ne fait pas un roman uniquement pour faire bouillir la marmite. Il y a quelque chose, surtout dans les plus grands, il y a quelque chose qui les transcende d'une certaine manière quand ils écrivent. Et tout de suite, il s'est attaché, d'ailleurs, dans son enseignement, à essayer de trouver le secret des grands auteurs. Et il va dire que les grands auteurs, principalement, il a commencé par Stendhal, Stendhal à Dostoïevski, disons, en gros. Hein. Et il a repéré ceux qui, par leur écriture romanesque, dévoilaient le mensonge romantique dans lequel la plupart des civilisations, en tout cas occidentales, se tiennent. Donc il s'agit de s'appuyer sur les grands pour dévoiler ce que les petits n'arrivent pas à dévoiler parce que leur écriture n'est pas à la hauteur de la tâche d'écrivain.
Alors, vous utilisez le terme dévoilement, ça sera un peu toute l'œuvre de René Girard, c'est-à-dire l'impression qu'il veut expliquer les choses cachées, donc en littérature, après on verra, en ethnologie, en anthropologie, etc. Essayer de comprendre en fait la marche des choses et même du coup la marche du monde. Alors, ça donne lieu à une première publication, Mensonges romantiques et vérités romanesques, en 1961, c'est son premier grand ouvrage, c'est ce que vous me disiez. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire mensonges romantiques et vérités romanesques? Qu'est-ce qu'il a découvert à ce moment-là qui commence à faire que cet homme a une pensée aussi fulgurante?
Alors, ça va être effectivement l'émergence, l'apparition. Quand j'ai dit dévoilement, vous savez que c'est le sens du mot apocalypse. Et c'est exactement ce qui va être le fil conducteur de toute son œuvre. C'est une apocalyptique, si vous voulez. C'est un dévoilement des forces cachées qui sont à l'œuvre jusque dans notre vie quotidienne. Alors, comme je vous l'ai dit, il a commencé avec les grands auteurs. Et il a montré que tous les grands ont traité de la même manière le désir mimétique. Je prends un seul exemple parce que je sais que vous en avez un second. Dans Stendhal, même s'il analyse surtout le rouge et le noir, dans La Chartreuse de Parme, il y a une page qu'on étudie en seconde ou première à l'école, qui est la scène de la jalousie du comte Mosca. Le comte, qui est donc l'amant de la chartreuse de l'héroïne que Fabrice Del Dongo commence à aimer, et donc il y a une sorte de triangle ayant perdu d'une certaine manière son amour pour sa femme, il le redécouvre par le fait que elle est désirée, ou semble-t-il il y a un point d'interrogation sur leur relation, et du coup il vit par sa jalousie une sorte de reprise de l'amour initial. Voilà. Et donc ceci est un des premiers exemples de la théorie mimétique.
Alors la théorie mimétique, du coup, si vous deviez résumer, ça serait quoi en fait? C'est que il y a en fait chez tout homme une violence fondamentale qui tient en fait à son désir, ou qui tiendrait à son désir, je vous dis comme je l'ai compris, et puis évidemment vous allez me corriger. Tout homme aurait des grands désirs, en fait des désirs même insatiables peut-être, et il y a une violence qui tient au fait que souvent on désire ce que l'autre a, ou alors l'image qu'on se fait de ce qu'il a, ou de qu'il est.
Dans un premier temps, on peut dire quelque chose comme ça, qui est analysable depuis l'enfance. Et donc, une de ces grandes commentatrices a pris l'exemple de deux enfants qui veulent un seau à sable rouge. Et on leur propose d'autres jouets bien plus intéressants, mais pourtant ils vont se battre pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Mais la valeur, c'est que l'autre le veut. Donc il y a une bataille, il y a donc une violence, parce que chacun veut s'approprier quelque chose parce que l'autre le désire. Ça, c'est la forme la plus, j'allais dire, basique du désir mimétique. Et elle est reprise dans les débuts de l'œuvre de Girard. Mais ensuite, ça ne nous satisfait pas, cette théorie, parce qu'on a tous vu des enfants se battre dans un bac de sable. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose au point qu'on la désire. Et ceci est typiquement de notre temps, c'est-à-dire du temps de la consommation et de la consumérisme, qui fait que tout vient devant nous, à notre regard, dans une forme de supermarché. Mais qu'est-ce qui fait la valeur? Alors, il y a le prix. Mais en réalité, c'est ça qui est la pointe de la théorie mimétique. Et alors là, je vais donner un deuxième exemple.
Un exemple littéraire?
Non, un exemple à partir des commentateurs. Par exemple, le même enfant. On est dans une crèche, cette fois-ci, et il y a eu la sieste après le repas de midi. Les enfants dorment et pendant ce temps, les animateurs de la crèche vont mettre un gros tas de jouets pour l'après-midi. On les réveille et puis les enfants regardent ce tas de jouets. Alors curieusement, ils ne se précipitent pas. Parce qu'il y a une telle abondance de désirs qu'il n'y a pas de désir, d'une certaine manière. Tout d'un coup, il y a un enfant qui va partir et qui va se diriger vers un ballon bleu. Et ce ballon bleu n'a pas de grande valeur en lui-même. Et à partir de ce moment-là, ce ballon bleu va avoir de l'importance. Et plusieurs enfants vont se diriger vers le même ballon. Parce qu'on passe là du triangle, enfin, l'objet du désir est deux personnes qui le désirent, avec une contradiction, et on va passer à un exemple plus social. Parce que Girard, c'est ce qu'on dit peu, Girard ne fait pas qu'une analyse du désir individuel. Il fait une analyse du désir à partir de la sociabilité de l'individu.
Alors on fait une première pause musicale et puis après on va voir comment Girard après a appliqué ça à l'ethnologie dans un premier temps, puis à l'anthropologie, et il en a découvert quelque chose que d'aucuns, enfin beaucoup trouvent génial, qui est une manière d'expliquer non seulement le ressort de la violence, mais peut-être la manière cachée de trouver une unité dans une société autour de la figure du bouc émissaire.
Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu ne change pas. Par la patience, tout s'obtient. Qui a Dieu ne manque de rien. Rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu ne change pas. Dieu seul suffit.
Présence.
Emmanuel Pella.
Ce matin, vous l'aurez compris, nous parlons de René Girard avec ce titre, Un penseur de génie, une émission pour essayer, suite à son décès, le 4 novembre 2015 dernier, une émission hommage, une émission pour essayer d'expliquer la pensée de cet homme hors norme, sa pensée hors norme, en essayant de la vulgariser et de nous la faire comprendre avec le frère Gilles Denroc qui est dominicain et qui est enseignant à l'IERP. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, mon frère, vous nous avez expliqué un petit peu le début de sa grande trouvaille, qui est donc de trouver que dans la littérature, il y a une forme de ressort dramatique chez tous les grands auteurs qui tient à ce qu'on appelle donc le désir mimétique, de désirer à quelque chose ou quelqu'un que quelqu'un d'autre désire et qui fait cette tension, si j'ai bien compris. Après, donc René Girard va essayer d'appliquer ça, ou enfin il va se lancer dans une autre recherche, alors là extrêmement ambitieuse, qui est d'appliquer ça en fait à toute l'histoire d'une certaine manière des civilisations. Alors on a du mal à comprendre ça, on a du mal à comprendre comment un esprit peut produire un tel travail. Est-ce que vous nous expliquez peut-être comment ça s'est fait, comment il est passé de la littérature à ce désir de vouloir creuser cette intuition et l'appliquer à l'ensemble des civilisations?
Alors justement, le titre qui résume toute cette première phase, hein, donc c'est un livre de critique littéraire, d'analyse des textes, du chartiste passé professeur de littérature, « Mensonges romantiques et vérité romanesque ». Il veut dire par là que nous sommes prisonniers de ce que nous croyons être notre vérité, qui est l'illusion que je désire quelque chose. Moi, je désire quelque chose. Et la vérité, c'est de montrer que derrière cette autonomie du désir se cache le triangle du désir mimétique. Et que, d'une certaine manière, il faudra que j'accepte de comprendre que ce que je désire me vient d'une rivalité du désir. C'est-à-dire que je sorte de ma bulle.
Il y a comme un dévoilement de mon désir.
Dévoilement de mon désir.
Je comprends que mon désir, c'est en fait, voilà. C'est la concurrence qu'il est.
Voilà. Donc le mensonge romantique, c'est de dire je suis autonome dans mon désir. Et c'est un vrai mensonge, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des auteurs très mineurs qui vont faire du triangle du désir, une comédie de boulevard avec l'amant, le mari, la femme, et puis on en rit. Alors que c'est quelque chose de beaucoup plus dramatique qui se joue. Et alors, le passage de la littérature à l'ethnologie, c'est celui-ci, c'est d'essayer de comprendre les ressorts de la violence. Puisque
dans toute civilisation.
Oui, mais dans tout désir, il y a le fait que s'il met advenu par le désir d'un autre ou par la dénomination par un autre que ceci a de la valeur, alors que moi-même je ne pouvais pas fixer la vraie valeur des choses. Bon, et à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de prise de conscience, comme on dit, que justement dans l'exemple du ballon bleu de tout à l'heure, eh bien plusieurs enfants. Donc un groupe, donc déjà quelque chose de social, de culturel, va se mettre à désirer le même ballon et se battre pour y arriver. Et à ce moment-là, on a une sorte d'explication plus profonde de la violence, qui est ce qu'il va appeler le bouc émissaire, c'est-à-dire que la violence dans une société, c'est tous contre tous. Puisque, effectivement, le même enfant qui a désigné le ballon bleu, le lendemain, on va lui donner une voiture de pompier rouge, et ça va être l'occasion d'une nouvelle guerre.
Et le même adulte, après, avec des objets de consommation,
Et
des
c'est...
femmes, sans vouloir les comparer, évidemment, à des objets de consommation, mais...
Oui, mais
un travail, une carrière, un poste.
Mais c'est ça justement le mensonge romantique. C'est que la carrière, la femme idéale, le ceci, le cela et la publicité, c'est un mensonge. Et donc là, je cite un ami qui travaillait avec René Girard à Stanford University, Jean-Pierre Dupuis. Il vient dans son dernier livre, il vient de montrer... En quoi, et là on est déjà dans l'analyse ethnologique ou sociale ou même planétaire de la question du désir mimétique, il montre que le système libéral fondé non plus sur l'économie mais sur la finance apparaît comme un système hyper rationnel. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes, ce sont des choses extrêmement calculées, ce sont des calculs qui sont à la base des décisions. Or, il montre que dans le fond, ce qui donne la valeur à un objet, c'est la publicité. Or, la publicité est un mensonge. Donc si vous dites c'est rationnel qu'une bonne entreprise mette entre 15 et 20% de son budget pour la communication et la publicité et que vous ne partez que de ça, mais il y a des publicités qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et donc là il y a quelque chose d'irrationnel parce que la publicité comme le mensonge romantique, c'est de dire vous êtes génial. Vous êtes unique au monde parce que vous achetez ça que tout le monde va acheter. Donc c'est une inversion permanente de la vérité. Une perversion permanente, il vaudrait mieux dire, de la vérité. Et ceci est purement irrationnel, ce qui veut dire que nous croyons rationnelles des choses qui sont irrationnelles. Vous voulez avoir une carrière, vous pensez vouloir réussir votre vie, réussir votre carrière, réussir vos rencontres, réussir vos amours, vos amitiés, tout ça.
Et on est en fait dans un mensonge romantique.
On est dans un mensonge. On est enfermé dans l'autonomie de son désir. Alors maintenant,
Alors excusez-moi, je vous pose juste une question. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, à vous entendre, hein, et alors pardon de de mes questions qui sont très très simples, hein, mais que du coup tout désir serait mauvais. Or l'homme est un être de désir, et heureusement qu'il est un être de désir. J'ai souvent entendu dire que c'est même la différence avec les grands primates, c'est que l'homme est un être de désir, en fait, qui désire sans fin. Et c'est aussi ce qui permet de lui permettre de se dépasser, de construire, de réfléchir, d'aimer et même de désirer Dieu, de chercher Dieu.
Mais précisément, alors on va y venir parce que c'est la vérité de ce désir-là que va révéler peu à peu l'œuvre de Girard, par opposition à la perversion du désir qui se joue dans nos sociétés modernes.
Alors, sans parler peut-être pour l'instant de la conversion de René Girard, c'est-à-dire que il ne dit pas pour autant que tout désir est mauvais.
Mais non, tout désir est excellent, puisque c'est la seule force qui nous permet de décoller de nous-mêmes pour aller vers l'autre et vers le tout autre. Donc effectivement, le désir de Dieu est le désir qui nous libère au maximum de tous les mensonges ou de toutes les contraintes ou de tous les automatismes que nous avons dans notre éducation ou dans notre culture. Le problème, c'est justement que nous sommes entrés dans une culture de consommation telle que nous sommes pris au piège. Et pour comment libérer le vrai désir dans un supermarché? Comment libérer la vérité du désir? Cette vérité qui va s'écrire comme une vie, qui va s'écrire comme un roman. La vérité est romanesque. C'est-à-dire, c'est la vérité d'une histoire. C'est la vérité de l'histoire de mon désir. Mais de mon désir décollé ou sorti de la gangue du mensonge.
Alors si vous deviez l'appliquer à ce que vous dites pour essayer peut-être de faire atterrir les choses, à l'exemple du supermarché, ça donne quoi au supermarché? C'est quoi dans ces cas-là, quand je vais faire mes courses au supermarché, la vérité romanesque de mes courses dans le supermarché?
La vérité romanesque, c'est de ne pas partir de la publicité, mais de la qualité des choses. Ne pas partir de la quantité, de l'indifférenciation, mais partir de la qualité de ce dont, justement, qui va devenir l'objet de mon vrai désir. En gros, c'est remplacer la quantité par la qualité.
Pour faire court. Alors, ce désir mimétique...
Pour
se faire très court. Ce désir mimétique, vous avez commencé à le dire, donc ça a eu comme issue, je ne sais pas si l'expression est très heureuse, mais la théorie du bouc émissaire. Alors, je vous dis ce que j'en ai à peu près compris de la théorie du bouc émissaire, et puis, parce que c'est probablement ça qui a fait aussi peut-être encore plus le génie de cet homme. Ce que j'en ai compris, c'est donc, en effet, chez tout homme, et du coup dans toute civilisation, il y a donc cette espèce de violence dans notre cœur et dans une collectivité où on a tendance à désirer donc ce que les autres désirent. Et puis, dans chaque société, en fait, il y aurait une espèce d'équilibre qui serait tenu parce que on trouverait comme exutoire à la violence un bouc émissaire. Alors tout à chacun, on a peut-être déjà fait l'expérience, malheureuse ou pas, dans les cours de récréation, dans des groupes adolescents, voire même parfois quand on est adulte ou en entreprise. Il y en a toujours un, souvent c'est souvent le plus petit, hein, même, enfin bon, je sais pas si ça fait partie de la théorie de René Girard, vous me direz, qui...
Non, c'est pas forcément, mais...
Quelqu'un, en tout cas, sur qui toute cette violence se cristallise, et à la lumière de toutes les, toute sa connaissance des civilisations archaïques, hein, enfin, et pas seulement passées, il dit que ce bouc émissaire, cette personne, à un moment, toute la violence se concentre sur elle, on la tue, et après, on en fait un dieu. Et que du coup, toute société trouve son équilibre comme ça. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations pour faire, une fois de plus, atterrir le débat et pour qu'on comprenne en quoi ce n'est pas qu'un débat d'intello?
Non, mais vous avez tout à fait bien compris et bien exprimé cette espèce de passage, justement, du triangle du désir à une sorte de triangle collectif du désir, puisque il n'y a plus qu'une violence de tous contre tous. À ce moment-là, il faut réguler cette violence par une violence sacrificielle, comme il va dire, c'est-à-dire il faut sacrifier quelque chose pour que la tension violente collective, bien sûr, s'apaise. Donc il faut trouver un ennemi commun. Et nous sommes en train de vivre des événements où il y a une sorte de concentration sur un ennemi diabolisé commun qui ferait l'unité de tous ceux qui le combattent. On voit bien comment ça marche, cette théorie. Des groupes ou des sociétés ou des civilisations va être de plus en plus de réussir à réguler par des mécanismes répétitifs. Et le sacrifice, précisément, qui va devenir une des pièces majeures des religions primitives, ces sacrifices vont être le moment fédérateur. Et il y a ce passage de l'ennemi au sacré. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape de la construction intellectuelle.
Celui qu'on a rejeté devient un dieu, en fait.
Et oui,
pour déculpabiliser la collectivité.
Voilà, parce que c'est celui qui nous apporte la paix.
Alors, est-ce que vous pouvez prendre un exemple passé, d'une civilisation passée, où c'est comme ça que ça se passait, et en effet, l'unité se faisait comme ça en rejetant.
Je sais pas, moi, j'étais très, très frappé de voir dans les pyramides du Mexique que l'appartement le plus beau, le plus somptueux, presque au sommet de la pyramide qui touche, où les dieux échangent avec les hommes, était donné aux vainqueurs des jeux. On prend des Jeux olympiques, les vainqueurs accédaient à cette presque hauteur de la pyramide et étaient sacrifiés. Donc il fallait gagner pour être sacrifié. Donc là, c'est un cas éminemment
symbolique.
Hiérarchique et symbolique. C'est-à-dire, on voit bien que la victime avait quelque chose de noble, puisqu'elle était déjà vainqueur de quelque chose de précieux, et que la victime était offerte en sacrifice, et que par là même, elle accédait au plus haut de la pyramide, c'est-à-dire à une sorte de divinisation. Et donc, ceux qui gagnaient savaient qu'ils seraient sacrifiés. Ils mettaient toute leur énergie à gagner pour aller dans le domaine des dieux. Il y a ce thème du sacrifice, et on le voit de nos jours, pour aller au paradis. Et là, on voit bien le mécanisme en cours du bouc émissaire devenu demi-dieu ou star, ou voilà. Parce qu'il nous faut aimer celui que l'on rejette. C'est ça le paradoxe du bouc émissaire.
Alors, on fait une pause, et puis vous allez peut-être nous aider à comprendre encore plus ce que c'est la portée, en fait, de cette découverte.
Emmanuel Pella.
Ce matin, vous l'aurez compris, nous parlons de René Girard avec ce titre « Un penseur de génie ». Donc pour ceux qui prendraient l'émission en cours, je vous rappelle que René Girard donc, est un grand intellectuel français qui a été exilé aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, qui est mort le 4 novembre dernier en 2015, qui était académicien et qui donc a développé une pensée enfin, que beaucoup considèrent comme assez géniale et très originale, qui essaye d'expliquer en fait la racine violente parfois du désir de l'homme ou de toute collectivité et sa manière de gérer cette violence. Alors, je suis pour rappel avec le frère Gilles Denroc, qui est dominicain, qui est enseignant à l'IERP, qui fait partie donc de l'Institut catholique de Toulouse. Vous nous avez expliqué donc à gros traits ce que c'était donc que le désir mimétique, ce que c'était donc que la théorie du bouc émissaire. Avant peut-être qu'on aille jusqu'au bout justement de sa découverte, frère Gilles Denroc, est-ce que vous pouvez nous redonner quelques exemples pour essayer de bien comprendre quelques exemples de cette théorie du bouc émissaire appliquée à l'histoire?
On pourrait prendre tous les transferts, je crois que c'est le plus simple pour nous aujourd'hui, tous les transferts du sacré en politique, toute la constitution des personnages demi-dieux que sont César Auguste, que sont donc qui avaient besoin d'une certaine manière du sang des martyrs pour faire l'unité de son empire, une unité qui serait à la fois politique, culturel et spirituel, puisqu'il serait à la fois du monde de la société, du monde humain, et en même temps du monde de la sphère des dieux. Et donc il serait une sorte d'intermédiaire entre les deux, et on pourrait appliquer ce qui a été dit tout à l'heure de la civilisation aztèque au Mexique. Donc là, on pourrait le dire pratiquement de toutes les couches ethnographiques que nous pouvons trouver dans le monde. Maintenant, on comprend que ces statues ou ces stars ou ces demi-dieux sont advenus à leur place par la violence et vont être justement mis à terre par une violence qui va se réguler contre eux. Les anciens dieux deviennent donc l'homme à abattre. Le petit père des peuples va être celui qu'il faut justement, bon, et contre lequel des rébellions, et puis peu à peu, une nouvelle strate de violence se constitue qui va trouver sa paix dans le déboulonnage de la statue d'en face. Et à ce moment-là, ceux qui ont fait la statue vont entrer dans un processus d'autodivinisation. Et c'est pour ça qu'il y a une question entre la violence et le sacré, c'est que ce processus de la mise en place d'une violence par rapport à un bouc émissaire va en même temps devenir le processus de l'autodivinisation de ceux qui réalisent la chose.
Et c'est-à-dire, alors sans vouloir être trop polémique, et vous me direz si mon exemple est complètement décalé, qu'on peut dire la même chose de l'Europe contemporaine. C'est-à-dire que il y a eu Hitler. Hitler a été la figure à rejeter et aujourd'hui il y a une espèce de, peut-être d'aucuns pourraient considérer qu'il y a une espèce de divinisation des institutions européennes qui serait comme un absolu ou un horizon.
C'est plus compliqué quand ça devient une institution ou une institutionnalisation. Mais on voit bien par exemple que Hitler se construisait avec et contre Staline. Et l'inverse a joué. Et que, justement, les démocraties ont eu plus de mal à émerger comme un visage qui pourrait s'opposer. C'est pour ça que la guerre de 39-45 a été une terrible boucherie, et avec des terribles déplacements de population, parce qu'il a fallu, justement, une nouvelle étendue de la masse qui rentrerait dans un processus de bouc émissaire suivant, de l'étape suivante, si vous voulez.
Alors, pardon donc si mon exemple n'était pas forcément très heureux sur les institutions européennes, tous ceux qui aiment les institutions européennes, et c'est le cas à Radio Présence, ne s'offusquent pas de cet exemple peut-être mal choisi. En tout cas, toujours est-il que René Girard va jusqu'au bout et il va jusqu'à la figure du Christ. Alors là, je vais vous dire justement ce que j'en ai compris, c'est qu'il dit justement, il y a comme une espèce de révélation anthropologique en fait de la vérité de la divinité du Christ, avec cette théorisation de René Girard qu'on vient de décrire, en disant, vous me corrigerez, que la différence, c'est que le Christ, lui, était innocent, et en plus d'être innocent, il a pris volontairement la place de celui qui allait être rejeté, et que ceux qui l'ont suivi derrière l'ont divinisé, mais l'ont divinisé non pas comme une figure d'exutoire, mais comme justement l'innocent sacrifié. Et qu'en lui, du coup, le Christ a pris toute la violence du monde et a renversé l'histoire en faisant l'unité non plus en ouvrant comme un royaume de paix où la figure qui a été rejetée, enfin l'unité se faisait non plus autour d'une figure à bannir, mais d'une figure non violente. Alors est-ce que j'ai tout à fait compris ? Et puis dites-nous exactement ce qu'il en est.
Oui, vous avez une très bonne analyse de la question de l'inversion. En fait, il faut partir de ce terme, de l'inversion du processus du bouc émissaire à partir de la passion du Christ. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, la victime est innocente, mais le bouc émissaire pourrait être un peu n'importe qui dans cette théorie, c'est-à-dire il en faut un. Donc il ne s'agit pas de le charger d'une sorte de malédiction intrinsèque. Non, ça peut être justement, c'est ça qui est terrible, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la violence terroriste, ça peut être n'importe qui. Là, c'est vrai. Jésus est l'innocent, pour reprendre le titre d'un très beau livre du Père Le Guillou, l'innocent qui venait d'ailleurs. C'est-à-dire, il vient de Dieu. Et donc, son origine est d'ailleurs que les oppositions empilées les unes sur les autres, et qui font la violence du monde. Et qui font que ce monde doit être sauvé. Jésus est un sauveur. En quoi est-il sauveur ? C'est là qu'on va toucher la perception la plus profonde et qui peut convertir littéralement, c'est-à-dire changer le regard, changer la vie, changer le regard sur Dieu et sur soi comme croyant en Dieu. Donc une conversion.
Alors en quoi est-il sauveur, justement ?
Justement, parce que il est victime et en ce sens, il dénonce la violence sacrée des sacrifices répétitifs. Pour le remplacer, comme le dit l'Épître aux Hébreux, par exemple, on avait cette lecture dimanche dernier, le remplacer par l'unique sacrifice non répétitif. L'Eucharistie n'est pas une répétition, mais la mise en présence du Christ. C'est un sacrifice non sanglant, comme nous disons, c'est le pain et le vin qui sont offerts. Et là, c'est là que ça s'est inversé, c'est-à-dire que Jésus révèle, comme la vérité romanesque par opposition au mensonge romantique,
il révèle Jésus en fait la théorie du bouc émissaire.
Il révèle le bouc émissaire.
Comme un paroxysme.
Voilà, il révèle par là la violence du monde, le principe de violence du monde, le principe de l'illusion de la paix qu'apporte le bouc émissaire, puisqu'il en faut un autre quelque temps après. Donc c'est une paix qui n'est pas la paix véritable que celle qu'apporte le Christ. Hein. De deux peuples, il n'en a fait qu'un seul. Il a tué la haine sur la croix, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2e. Et donc c'est cette paix, il a fait la paix par le sang de la croix, pour citer encore saint Paul. Et en ce sens, nous voyons à quel point la passion du Christ et la convergence de toute l'histoire du passé et de l'avenir du Christ, c'est ce que saint Paul aussi appelle la récapitulation de toute chose dans le Christ, c'est-à-dire que dans l'unique sacrifice de la croix, la victime dénonce et le processus de violence dans le monde et le processus de sacré dans le monde.
Mais alors pourquoi lui particulièrement? Parce que c'était pas le premier crucifié de l'histoire, vous voyez. Donc c'est juste parce qu'il prend volontairement la place, et parce que derrière, justement, c'est un dieu. Enfin, il est vénéré, il est adoré, et ce juste après sa mort.
C'est-à-dire qu'il encaisse, si je puis dire, les mots sont trop difficiles. Il encaisse la violence du monde sans la faire rebondir. Ce que, justement, nous n'avons pas d'autres exemples dans l'histoire de ceci particulier.
Et pourquoi il ne la fait pas rebondir particulièrement par rapport à tous les exemples passés que vous avez cités et théorisés par René Girard?
Mais parce que, précisément, il refuse d'être dans la spirale du processus de la violence et du sacré. Il refuse d'être et dans l'un et dans l'autre, et de faire rebondir de l'un vers l'autre, qui va rebondir en violence, qui va rebondir en sacré, qui va rebondir en violence, qui va rebondir en sacré. Il arrête la répétition des choses. D'une certaine manière, c'est ce que fait Jésus dans sa passion. Il faut prendre au sérieux ce que des chercheurs contemporains, je pense au philosophe Michel Henry, qui va insister sur la passivité de la passion. C'est-à-dire que Jésus, quand il est arrêté, il est menotté, il n'est plus l'acteur de la passion.
C'est l'agneau immolé. C'est...
Oui, il est dès avant la fondation du monde. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que René Girard avait pris ce titre. Donc la question est que il y a passion, c'est-à-dire amour passionné, si vous voulez, pour l'humanité, mais en même temps, il y a passivité. Il révèle, c'est un révélateur de la violence du monde, alors, qui se concentre sur lui. Et en tant que passif, pardonnez-moi, en tant que passif, il se situe derrière la ligne où la violence se nourrit d'elle-même. Et elle se nourrit d'elle-même en se sacralisant elle-même. Et en se désacralisant par une autre violence qui va se resacraliser, et ainsi de suite. Il est au-delà de cette ligne. Et c'est dans cette ligne-là, derrière cette ligne-là, on ne rebondit pas en violence. On s'offre. Et en ce sens, on peut comprendre la parole de Saint Jean, chapitre 10-18, je crois. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est là l'inversion. C'est que, disons, Pilate...
Il a pris la place du bouc émissaire, en fait, de pour toujours, c'est ça, d'une certaine manière. Et il révèle, du coup, pour chacun et pour les collectivités, en fait, les ressorts de la violence.
Oui, oui, mais plus, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire qu'il ne fait pas que révéler, comme en allumant un interrupteur, vous voyez tout d'un coup ce qu'il y a dans une pièce qui était dans le noir. Il nous donne... Dans le don qu'il fait, il nous donne l'énergie de vivre comme lui, puisque en tant qu'homme, Jésus est imitable, l'imitation de Jésus-Christ. Et il nous donne la voie de l'évangile pour que nous puissions être en lui, lui.
Alors on fait une dernière pause et puis après vous allez nous expliquer ça justement, c'est-à-dire que si Jésus prend cette place, comme vous dites, ça a une incidence aussi sur tout à chacun, sur l'humanité, ça a une incidence sur René Girard, cette révolution, quelle suite, comment sortir du coup après de ce désir mimétique et de ce cycle infernal d'une violence répétée.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com. Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, nous parlons donc de René Girard avec ce titre « Un penseur de génie ». Alors si vous prenez notre émission en cours de route, je rappelle que nous sommes avec le frère Gilles Danroc, qui est dominicain, enseignant à l'IERP, qui fait partie de l'Institut catholique de Toulouse. Et nous essayons, ou plutôt le frère Gilles Danroc essaye, avec mes pauvres questions, de présenter la pensée donc de ce penseur extraordinaire, qui est donc, je vous le rappelle, est mort le 4 novembre dernier en 2015, qui a été salué dans le monde entier, qui était académicien en France, et qui donc a théorisé, ou si j'ai bien compris à la fin de cette émission, a théorisé de manière anthropologique le ressort violent qu'il y a dans le désir de tout homme, qui a tendance à désirer ce que l'autre veut, ce qui produit la violence dans le cœur de chacun, dans une collectivité, ce qui aboutit, pour réguler cette violence, à choisir un bouc émissaire, à le rejeter et derrière à en faire un dieu. Et le Christ, lui, en prenant la place, alors vous me corrigerez, en prenant la place de tous ces boucs émissaires de l'histoire, a comme annulé la violence en lui et a ouvert une nouvelle ère. Alors maintenant sur la portée en fait de sa découverte, c'est-à-dire que si le Christ, alors vous me corrigerez, a pris la place de tous ces boucs émissaires, qu'est-ce que ça a comme incidence? C'est-à-dire qu'en fait ça le christianisme permet, la figure du Christ en fait, et la foi du coup peut-être chrétienne, permet de sortir en fait de ce cycle infernal du désir mimétique et de cette violence personnelle et de sociétés qui font leur unité par le bas, c'est-à-dire en rejetant quelqu'un et après en le divinisant. Alors est-ce que ça permet d'en sortir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, c'est cela. En même temps, c'est un déplacement de la place du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la même place à partir du Christ. C'est-à-dire que s'il y a un dévoilement, si un mensonge est reconnu comme un mensonge, à ce moment-là, il y a une recherche d'autre chose, une recherche de cette vérité de la paix qu'apporte le Christ, qui est une paix qui n'est pas non plus illusoire au sens où la collectivité irait directement se fondre dans cette paix. Il faut que chacun puisse se l'approprier et aller dans cette direction. C'est-à-dire que la liberté maintenant, la liberté est dévoilée. C'est notre liberté qui est en jeu.
Donc c'est notre liberté de rentrer dans ce désir mimétique.
Dans cette nouvelle place. C'est dans justement autre chose que le mensonge.
Alors si vous deviez appliquer cette autre chose à ce qu'on a vu, c'est-à-dire ce désir mimétique qu'il y a dans le cœur de chaque homme, de désirer quelque chose que l'autre désire, et puis de manière collective, donc de faire l'unité par le rejet de quelqu'un. Ça implique quoi comme changement?
Mais comprenez,
concrètement, comme on dit.
Le désir mimétique explique, d'une certaine manière, une perversion du désir. Le désir est un désir qui est au-delà de la rivalité. Le vrai désir, le désir dévoilé, c'est un désir d'amour, c'est un désir de l'autre comme autre. Mais entre il y a eu toutes les étapes du voilement, des voiles successifs duquel on a recouvert la vie humaine, on a recouvert, y compris des religions, on recouvert cette réalité du désir de Dieu que finalement le Christ nous révèle en nous révélant que Dieu nous désire. Et c'est pour cela qu'il s'est incarné, qu'il est venu au milieu de nous pour dévoiler la vérité de Dieu et la vérité de l'homme. Et il faut comprendre ça comme un dévoilement, une apocalypse. Et c'est en ce sens que les chrétiens sont porteurs d'un évangile qui est la déflagration la plus grande de lumière paisible, si je puis dire, par opposition. C'est-à-dire que cette vérité de l'évangile, nous en sommes porteurs. Et combien de fois nous recouvrons cette vérité de tas de voiles pour toutes sortes de raisons, dont les raisons qui nous font retomber dans le mensonge.
Mais alors je vous repose la question, à une échelle personnelle, le Christ, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire en quoi il m'aide à sortir de ce désir mimétique, de cette rivalité mimétique? En quoi il m'aide à sortir de cette violence du désir?
Bien, précisément parce...
En donnant un exemple si possible.
Mais précisément parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il nous ouvre à une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui n'est plus prisonnière de tous les mensonges, de toutes les illusions, de toutes les violences et de toutes les répétitions du sacré ou du ressentiment, enfin toutes les répétitions dans l'histoire. Il nous ouvre à une histoire qui nous conduit devant nous au royaume, en quelque sorte. Quand nous prenons au sérieux notre baptême, je vais prendre un exemple relativement simple. Pour le chrétien, plongé dans la mort du Christ, ressuscitant avec lui, la mort est derrière.
Et quelles conséquences sur le désir ?
Ben, par exemple, le désir de Dieu. Je désire aller à Dieu, et ce désir me fonde moi-même dans ma personnalité la plus profonde, et ceci, je ne le vends pas au plus offrant, je le garde comme la route qui conduit tous mes choix et toute ma liberté et tout mon désir d'aimer au nom de Dieu dans la vérité.
En quoi ça m'aide à avoir un désir moins jaloux ? C'était ça l'objet de ma question. C'est-à-dire en quoi ça m'aide à avoir moins d'illusions dans mon désir, si j'ai bien compris, que ce soit à l'égard d'objets, à l'égard de personnes, à l'égard de carrière, de désir d'argent.
Et par exemple, Jésus lui-même a dû accepter que ça ne soit pas sa volonté, mais la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est entièrement amour. Et c'est ça, Gethsémani. Chacun de nous a son Gethsémani. Quelle volonté vais-je vivre ?
Et celle de Dieu ou la mienne, c'est ça ?
Voilà. Ou celle
appliquée à toutes ces situations.
Ou celle des désirs que l'on me prête, ou que l'on me configure. Et c'est à partir de cette libération du désir qui s'impose à moi comme la norme, la normalité de vivre, que je deviens moi-même une personne désirante, aimante et donc en relation.
Et alors, appliqué à l'échelle d'une société, ça sera, l'émission touche à sa fin, mais ça sera appliqué à l'échelle d'une société, c'est-à-dire que du coup, on sort du bouc émissaire, donc toute société se fait, l'unité se fait comment ? Je vous dis, moi, la manière dont j'avais compris, c'est-à-dire que celui qu'on a l'habitude de rejeter, en fait, devient parfois le lieu de l'unité, par exemple, le plus fragile.
Oui. Ben là, il s'agit d'entrer dans une autre approche de l'autre que celle de la violence. Nous sommes dans le désir de paix, de pacification intérieure et de pacification passant par notre vie, par notre témoignage de vie. En Christ, nous passons justement de la rivalité à la recherche de l'unité. La même énergie que je mettrais à concurrencer, je la mets à faire la paix. C'est-à-dire, je dois m'accepter comme aussi le jouet du désir mimétique des autres et ne pas vouloir en faire ma victoire contre ces désirs, mais je l'accepte et je vis autre chose.
Mais est-ce que celui qu'on avait tendance à rejeter, du coup, peut devenir le lieu d'unité, mais autrement ? Je prenais par exemple l'exemple, je sais pas, l'exemple des personnes handicapées. Disons qu'il fut un temps où les personnes handicapées étaient rejetées et puis on se déchargeait facilement sur elles. Et celui souvent dans les groupes, en fait, qui est le plus fragile, peut devenir le lieu, peut devenir en fait la personne qui fait l'unité. Je pense par exemple à l'arche.
Oui, tout à fait. Mais c'est le véritable amour. C'est-à-dire un amour qui est à la fois d'égalité. Il n'y a pas une domination du bien portant sur le handicapé ou de l'un sur l'autre, qui peu à peu va créer justement les conditions de la violence. Mais il y a l'acceptation de la vie que l'on a reçue comme tel, et qui nous met en relation avec ceux qui ont reçu la vie, y compris autrement, et non plus dans une soif de domination ou de réalisation de soi par la violence. Et la violence qui est toujours, c'est ce phénomène-là dont Jésus nous libère absolument, Et c'est pour cela que la charité, d'ailleurs, la plus vénérable, la plus adorable, c'est la charité, c'est la charité cachée, c'est l'amour caché. Et cet amour qui ne devient pas, qui ne starifie pas, qui ne met pas en avant, mais qui met au pas justement du plus petit qui est sans aide. Et c'est dans cet amour-là, c'est dans la charité que se réalise enfin l'homme nouveau que le Christ est venu mettre par sa résurrection devant nous comme le point de convergence de notre vie. Donc notre mort, elle est derrière nous. Ce qui est devant nous, c'est cette résurrection de la vie par la charité.
Eh bien, merci beaucoup, frère Gilles d'Enroc, d'être venu nous aider à comprendre la portée de la pensée de cet homme, René Girard, qui est donc mort le 4 novembre 2015, probablement entré dans la lumière, fort en tout cas de toute la révélation qu'il a donnée de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et de sa foi. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet radioprésence.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.